Chapitre 5. Washington DC, mardi 16 décembre 1980. Une fois descendu d'avion, Tony Harrod et Maria Chen louèrent une voiture à l'aéroport national de Washington et se rendirent directement à Georgetown. On était en début d'après-midi. Ils aperçurent les eaux grises et languides du Potomac en traversant le Mason Memorial Bridge. Les arbres dénudés projetaient des ombres éthiques sur le Maine. Wisconsin Avenue était presque déserte.
C'est là, dit Harrod.
Maria tourna dans M Street. Les maisons somptueuses semblaient se blottir les unes contre les autres dans la pauvre lumière hivernale. Celle qu'il cherchait ne se distinguait en rien de ses voisines. Il était interdit de stationner devant la porte jaune pâle de son garage. Un couple passa, elle et lui emmitouflés dans leur manteau de fourrure, avec un caniche frissonnant qui tirait sur sa laisse.
« Je vais vous attendre, » dit Maria Chen.
« Non, » dit Harrod. « Continuez de rouler. Repassez ici toutes les 10 minutes. »
Elle hésita quelques instants tandis que Harrod descendait, puis s'éloigna, coupant la route à une limousine avec chauffeur. Harrod négligea la porte d'entrée et s'approcha du garage. Il souleva un panneau métallique dissimulant une fente et 4 boutons, sortit une carte magnétique de son portefeuille et l'inséra dans la fente. Il y eut un déclic. Il s'approcha du mur et appuya 4 fois sur le 3e bouton, puis 3 autres fois. La porte du garage se souleva. Harrod récupéra sa carte et entra. La porte se referma derrière lui, plongeant les lieux dans l'obscurité. On n'y sentait aucun relent d'huile ou d'essence, mais une odeur de béton froid et un vague parfum de résine émanant d'un tas de bûches. Il fit 3 pas et s'arrêta, sans chercher la porte ni l'interrupteur. Un léger bourdonnement électrique lui indiqua que la caméra vidéo venait de le filmer pour s'assurer qu'il était bien seul. Il supposa que l'objectif était pourvu d'une lentille à infrarouge. En fait, il s'en souciait comme d'une guigne. Une porte s'ouvrit avec un déclic. Harrod la franchit et se retrouva dans une pièce vide, qui avait jadis fait office de buanderie, à en juger par son installation électrique et sa plomberie. La caméra vidéo fixée au-dessus de la 2e porte pivota sur son axe pour se braquer sur lui. Harrod ouvrit la fermeture à glissière de son blouson d'aviateur.
« Veuillez ôter vos lunettes noires, monsieur Harrod. »
La voix provenait d'un interphone encastré dans le mur.
« Je vous emmerde !»
dit Harrod d'une voix enjouée, puis il ôta ses lunettes d'aviateur. Alors qu'il les remettait, la porte s'ouvrit sur 2 hommes de grande taille, vêtus de costumes sombres. Le premier était chauve et massif, le stéréotype du videur ou du garde du corps. Le second était plus grand, plus mince, plus ténébreux, et, pour une raison à déterminer, paraissait infiniment plus menaçant que son collègue.
« Voulez-vous avoir l'obligeance de lever les bras, monsieur ?» demanda le premier.
« Voulez-vous avoir l'obligeance d'aller vous faire foutre ?» répliqua Harrod. Il détestait que des hommes le touchent. Il détestait l'idée qu'ils puissent les toucher.
Les 2 cerbères attendirent patiemment. Harrod leva les bras. L'armoire à glace le palpa de façon professionnelle, impersonnelle, puis adressa un hochement de tête à son collègue.
« Par ici, monsieur Harrod. »
Il suivit le grand échalas dans une cuisine inutilisée, puis dans un couloir brillamment éclairé qui donnait sur plusieurs pièces nues, avant de s'arrêter au pied d'un escalier.
« Première pièce à gauche, monsieur Harrod, » dit l'homme en indiquant l'étage. « On vous attend. »
Harrod gravit l'escalier sans rien dire. Les marches étaient en chêne clair et impeccablement cirées. L'écho de ses pas résonnait dans toute la maison. Elle sentait le vide et la peinture neuve.
« Monsieur Harrod, ravi de vous voir parmi nous. »
5 hommes étaient assis en demi-cercle sur des sièges pliants. La pièce où ils se trouvaient avait sans doute été la chambre principale ou un vaste bureau.
Le plancher était nu, les volets blancs et la cheminée froide. Harrod connaissait ces hommes, du moins par leur nom. De gauche à droite, il y avait Trask, Kolben, Sutter, Barent et Kepler. Ils portaient tous des costumes coûteux de coupe classique et avaient presque tous la même attitude, dos raide, jambes et bras croisés. Trois d'entre eux avaient un attaché-case posé près de leur siège. Trois d'entre eux portaient des lunettes. Tous les cinq étaient de race blanche. Leur âge allait de la quarantaine finissante à la soixantaine bien tassée. Barent étant le doyen. Kolben était presque chauve, mais les quatre autres fréquentaient apparemment le même coiffeur de Capitol Hill. C'était Trask qui avait pris la parole. « Vous êtes en retard, monsieur Harrod, » ajouta-t-il. « Ouais, » dit Tony Harrod en s'approchant. On n'avait pas prévu de siège pour lui. Il ôta son blouson de cuir et du bout de l'index le jeta sur son épaule. Il portait une chemise en soie rouge vif, largement ouverte, afin d'exhiber une dent de requin accrochée à une chaîne en or, un pantalon de velours côtelé maintenu en place par un ceinturon, dont la boucle à l'effigie de R2-D2 lui avait été offerte par George Lucas, et de lourdes bottes fourrées au talon massif.
L'avion était en retard.
Trask hocha la tête. Kolben s'éclaircit la gorge comme s'il allait prendre la parole, mais se contenta de redresser ses lunettes cerclées d'écailles.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Harrod.
Sans attendre une réponse, il se dirigea vers le placard, en sortit un siège pliant et compléta le cercle. Il s'assit à califourchon et posa son blouson sur le dossier.
« Est-ce qu'il y a du nouveau ou est-ce que j'ai fait ce foutu voyage pour rien ?»«
C'est ce que nous allions vous demander, » dit Barent. Sa voix était distinguée et bien modulée. Il y avait une pincée de côte est, voire d'Angleterre, dans la façon dont il prononçait les voyelles. De toute évidence, Barent n'avait pas coutume d'élever la voix pour se faire entendre. C'était lui que l'on écoutait.
Harrod haussa les épaules.
« J'ai prononcé l'oraison funèbre de Willy pendant la cérémonie. Forest Lawn. Très émouvant. Environ 200 célébrités hollywoodiennes se sont pointées pour lui rendre hommage. En fait, il en avait peut-être rencontré 10 ou 15.
« Sa maison, » dit Barent d'un ton patient. « Avez-vous fouillé sa maison comme nous vous l'avions demandé ?»«
Ouais. »
« Et alors ?»«
Alors rien. »
La bouche de Harrod n'était plus qu'un trait effilé sur son visage pâle. La commissure de ses lèvres, habituée au sarcasme et à la cruauté, exprimait à présent une forte tension.
« Je n'ai disposé que de 2 heures. J'en ai passé une à chasser d'anciens gigolos de Willy qui avaient conservé leurs clés et étaient accourus sur les lieux comme des vautours sentant la charogne. »«
Avait-il été utilisé ?» demanda Kolben.
Sa voix était empreinte d'anxiété.
« Non, je ne pense pas. Willy était en train de perdre son pouvoir, rappelez-vous. Peut-être les avait-il légèrement conditionnés, caressés un peu. Mais ça m'étonnerait. » Avec son fric et son influence auprès des studios, il n'en avait pas besoin.
« La fouille, » dit Barent.
« Ouais. Donc, j'ai disposé d'une heure. Tom McGuire, l'avocat de Willy, est un de mes vieux amis, et il m'a laissé examiner les papiers qui se trouvaient dans le bureau et dans le coffre. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques contrats et options, quelques actions, mais pas de quoi faire un portefeuille. Willy se contentait d'investir dans le cinéma. » Pas mal de lettres d'affaires, mais presque rien de personnel. La lecture du testament a eu lieu hier, vous savez. J'hérite de la maison, à condition de régler ces putains de taxes. Le gros de son fric est bloqué dans divers projets. Il a légué le reste de son compte en banque à la SPA d'Hollywood.
« La SPA ?»
répéta Trask.
« Tout juste, Auguste. Ce vieux Willy était un ami des bêtes. » Il se plaignait toujours de la façon dont on les traitait dans les films. Et il a fait campagne pour des lois plus strictes sur l'utilisation des chevaux dans les cascades et tout ce bordel.
« Continuez, » dit Barent.
Vous n'avez trouvé aucun document susceptible de trahir le passé de Willy?
Non.
Et rien qui trahisse l'existence de son talent?
Non, rien.
Et aucune mention de l'un d'entre nous?
Demanda Sutter.
Harrod se redressa sur son siège.
Bien sûr que non! Vous savez bien que Willy ignorait tout du club.
Barent acquiesça et se croisa les doigts. Vous en êtes absolument sûr, monsieur Harrod?
Absolument.
Pourtant, il connaissait l'existence de votre talent.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais vous étiez d'accord pour qu'il soit mis au courant?
C'est ce que vous m'avez dit quand vous m'avez demandé de faire sa connaissance.
Effectivement.
Et de plus, Willy a toujours pensé que mon talent était faible et peu fiable comparé au sien. Parce que je n'avais pas besoin d'utiliser un sujet aussi complètement que lui. Et parce que... à cause de mes préférences.
Ne jamais utiliser un homme, dit Trask.
À cause de mes préférences, insista Harrod. Willy ne savait foutre rien. Il me méprisait alors même qu'il lui restait à peine assez de pouvoir pour contrôler Reynolds et Luard, ces deux ânes damnés. Il n'y réussissait même pas la moitié du temps.
Barent acquiesça de nouveau.
Donc, vous ne pensez pas qu'il était encore capable d'utiliser un sujet pour éliminer quelqu'un?
Bon Dieu, non! Pas vraiment!
Peut-être était-il encore capable d'utiliser ces deux gorilles ou un de ces gitons, mais il n'était pas assez stupide pour en arriver là.
Et vous l'avez laissé partir pour aller à cette réunion à Charleston avec ses deux femmes?
Demanda Kepler.
Harrod agrippa le dossier du siège à travers le cuir de son blouson.
Comment ça, laisser partir? Bon Dieu, oui, je l'ai laissé partir! Mon boulot, c'était de le surveiller, pas de l'empêcher de voyager. Willy voyageait dans le monde entier.
Et à votre avis, que faisait-il lors de ces réunions?
Demanda Barent.
Harrod haussa les épaules.
Il parlait du bon vieux temps, taillait le bout de gras avec ses deux vieilles folles. Pour ce que j'en sais, il les baisait encore.
Comment le saurais-je, bordel?
D'habitude, il restait là-bas à peine 2 ou 3 jours. Ça n'a jamais posé de problème.
Barent fit signe à Colben. Le chauve ouvrit son attaché-case et en sortit un livre marron qui ressemblait à un album de photos. Il se leva pour le tendre à Harrod.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Regardez, ordonna Barent.
Harrod feuilleta l'album. Assez vite tout d'abord, puis très lentement. Il lut plusieurs coupures de presse dans leur intégralité.
Lorsqu'il eut fini, il ôta ses lunettes noires. Personne ne parlait. On entendit un coup de klaxon quelque part dans M Street.
« Ce n'est pas à Willy, » conclut Harrod.
« Non, » dit Barent. « Ceci appartenait à Nina Drayton. »«
Incroyable ! Bordel, c'est pas possible ! La vioque était sûrement sénile ou mégalo. Elle se croyait encore au bon vieux temps. »«
Non, » dit Barent. Il semble qu'elle ait été présente au moment approprié. Elle est probablement responsable.
Bon Dieu de merde!
Harrod remit ses lunettes et se massa les joues.
Où avez-vous trouvé ça? Dans son appartement de New York?
Non,
répondit Colben.
Un de nos hommes s'est rendu à Charleston samedi dernier, suite à ce qui est arrivé à l'avion de Willy. Il a réussi à pénétrer dans le bureau du coroner et à soustraire ceci des objets personnels de Nina Drayton avant que la police locale n'ait eu le temps de l'examiner.
Vous en êtes sûr?
Absolument.
La question est de savoir s'ils jouaient encore à une variante de leur vieux jeu viennois, dit Barent.
Et si tel était le cas, votre ami Willy avait-il un document similaire en sa possession?
Harrod secoua la tête mais resta muet. Colben sortit un dossier de son attaché-case.
On n'a rien trouvé de concluant dans les débris de l'appareil. Bien sûr, on n'a pas retrouvé grand-chose. Plus de la moitié des passagers sont encore portés disparus. Les corps repêchés dans les marais sont en général trop mutilés pour être identifiés sans risque d'erreur. L'explosion a été très puissante. La nature des lieux rend les opérations encore plus délicates. C'est une situation difficile pour les enquêteurs.
« Laquelle de ces deux salopes était responsable ?»
demanda Harrod.
Nous n'en sommes pas sûrs, dit Colben. Cependant, il ne semble pas que Mrs. Fuller, la vieille amie de Willy, ait survécu au week-end. C'est la candidate la plus probable.
Pauvre Willy. Quelle mort dégueulasse,
observa Harold sans s'adresser à quiconque en particulier.
S'il est vraiment mort, intervint Barent.
Hein?
Harold s'inclina en arrière. Il étendit les jambes et ses talons laissèrent des traînées noires sur le parquet de chêne.
Vous pensez qu'il n'est pas mort? Qu'il n'était pas à bord de l'avion?
Le contrôleur des billets se rappelle avoir vu Willy et ses deux amis monter dans l'avion, dit Colben. Ils se disputaient, Willy et le noir.
Jensen Luard, dit Harold. Ce connard sans cervelle.
Mais il n'est pas certain qu'il soit resté à bord, dit Barent.
Le contrôleur a dû quitter son poste quelques minutes avant la fermeture des portes de l'appareil.
Mais rien ne permet de conclure que Willy n'était pas à bord,
insista Harold. Colben reposa son dossier.
Non. Cependant, tant que nous n'aurons pas retrouvé le corps de M. Borden, nous ne pourrons pas avoir la certitude qu'il a été... neutralisé.
Neutralisé, répéta Harold.
Barent se leva et s'approcha de la fenêtre. Il écarta le rideau qui dissimulait les volets blancs. La lumière indirecte donnait à sa peau lisse l'éclat de la porcelaine.
Monsieur Harold, est-il possible que Willy von Borchert ait connu l'existence de l'Island Club?
Harold redressa violemment la tête comme si on venait de le gifler.
Non, absolument pas.
Vous en êtes sûr?
Sûr et certain.
Vous ne lui en avez jamais parlé, même de façon indirecte.
Pourquoi aurais-je fait ça, bordel? Non, bon Dieu! Willy ne savait rien.
Vous en êtes sûr? Willy était vieux, Barent. J'ai bien dit, vieux.
Il était à moitié dingue depuis qu'il ne pouvait plus utiliser les gens. Surtout les utiliser pour tuer.
Tuer, Colben. T-U-E-R. Pas neutraliser, ni annuler un contrat, ni faire subir un préjudice extrême, ni aucun de vos foutus euphémismes. Willy tuait pour rester jeune, mais il n'y arrivait plus. Et ce pauvre vieux débris se desséchait comme une prune laissée au soleil.
S'il avait appris l'existence de votre foutu Island Club, il se serait traîné à genoux jusqu'ici pour vous supplier de l'accepter comme membre.
C'est aussi votre Island Club, Harold, déclara Barent.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais comme je n'ai jamais mis les pieds là-bas, je n'en suis pas encore sûr.
Vous serez invité à y passer la deuxième semaine cet été. La première semaine n'est pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas?
Peut-être. Mais je crois bien que j'aimerais me frotter aux riches et aux puissants, sans parler des petites caresses que je pourrais donner moi-même.
Barent éclata de rire. Certains de ses compagnons l'imitèrent.
« Mon Dieu, Harold !» dit Sutter. « Hollywood ne vous suffit donc plus ?»«
En outre, » dit Trask, « ne serait-ce pas un peu dur pour vous ?»« Vu la liste de nos invités pour la première semaine et vu vos préférences ?»
Harold se tourna vers lui, les yeux réduits à des fentes étroites percées dans un masque blafard. Il parla lentement, prononçant chacun de ses mots avec autant de précision que s'il avait placé des balles dans un chargeur.
« Vous savez ce que je veux dire. Foutez-moi la paix. »
« Oui, » dit Barent.
Sa voix était apaisante, son accent anglais plus perceptible. « Nous savons ce que vous voulez dire, monsieur Harold. Et cette année sera peut-être la bonne pour vous. Savez-vous qui se trouvera sur l'île le mois de juin prochain ?»
Harold haussa les épaules et détourna les yeux de Colben.
« Les mêmes boy scouts que d'habitude, je suppose. Henrika va revenir faire un tour, j'imagine. Et peut-être un ex-président. »«
Deux ex-présidents, »
corrigea Barent avec un sourire, « ainsi que le chancelier d'Allemagne fédérale. Mais ce n'est guère important. Nous aurons aussi le prochain président. »«
Le prochain président ?» « Bon Dieu, vous venez à peine d'en faire élire un. »«
Oui, mais il est vieux, »
dit Trask.
et les autres se mirent à rire comme si c'était une de leurs plaisanteries pour initier.
« Je parle sérieusement, » dit Barent.
« Cette année sera la bonne pour vous, monsieur Harrod. Quand vous nous aurez aidé à éclaircir les derniers détails de cette malheureuse histoire de Charleston, plus rien ne s'opposera à ce que vous deveniez un membre à part entière. »
« Quel détail ?»«
Premièrement, aidez-nous à confirmer la mort de William Desborden, alias Herr Wilhelm von Borchert. Nous allons continuer notre propre enquête. Peut-être retrouvera-t-on bientôt son corps. Vous pourrez nous aider à éliminer les autres possibilités éventuelles. »
« D'accord. Quoi d'autre ?»«
Deuxièmement, effectuez une fouille plus poussée de la propriété de M. Borden avant l'arrivée de... d'autres vautours. Assurez-vous qu'il n'a rien laissé qui soit de nature à embarrasser quiconque. »
« Je retourne là-bas ce soir. J'irai chez Willy dès demain matin. »
« Excellent. »
« Troisièmement, et pour finir, nous aimerions que vous nous aidiez à régler un dernier détail relatif à Charleston. »
« À savoir ?»«
La personne qui a tué Nina Drayton et qui est presque certainement responsable de la mort de votre amie Willy, Mélanie Fuller. »
« Vous pensez qu'elle est encore en vie ?»«
Oui. »
« Et vous voulez que je vous aide à la retrouver ?»«
Non, » dit Colben, « nous la retrouverons. » »«
Et si elle a quitté le pays ?»«
C'est ce que je ferai à sa place. » »«
Nous la retrouverons, » répéta Colben.
« Si vous ne voulez pas que je la retrouve, que voulez-vous que je fasse ?»«
Nous voulons que vous soyez présent lorsqu'elle sera appréhendée, » dit Colben.
« Nous voulons que vous annuliez son contrat. »
« Que vous la neutralisiez, » dit Trask avec un petit sourire.
« Que vous lui fassiez subir un préjudice extrême, » ajouta Kepler.
Harrod clina des yeux et se tourna vers Barent, toujours debout près de la fenêtre. Barent le regarda en souriant.
« Il est temps que vous payiez votre écho, monsieur Harrod. Nous retrouverons la vieille dame. Ensuite, il faudra nous tuer cette emmerdeuse. »
Harrod et Maria Chen durent se rendre à l'aéroport international de Dulles afin de prendre un vol direct pour Los Angeles partant avant la nuit. L'avion décolla avec 20 minutes de retard suite à des ennuis mécaniques. Harrod avait besoin de boire un verre. Il détestait prendre l'avion. Il détestait confier son sort à un tiers, et c'était exactement ce qu'il faisait chaque fois qu'il prenait l'avion. Il connaissait par cœur les statistiques démontrant la sécurité du transport aérien. Elle ne signifiait rien à ses yeux. Il n'avait aucune peine à imaginer les fragments de métal tordu éparpillés sur plusieurs hectares, luisant parfois encore d'un éclat incandescent, les morceaux de corps rouges et roses étalés dans l'herbe comme des tranches de saumon séchant au soleil.
« Pauvre Willy, » pensa-t-il.
« Pourquoi ne sert-on jamais à boire avant le décollage, bordel ? » dit-il. « C'est maintenant que j'ai besoin d'un verre. »
Maria Chen sourit. Les balises étaient allumées lorsque l'avion s'engagea enfin sur la piste, mais le soleil brillait encore quand ils eurent franchi l'épaisse couche nuageuse. Harrod ouvrit son attaché-case et en sortit une liasse de scénarios. Il avait 5 projets à examiner. 2 des scripts étaient trop longs, plus de 150 pages, et il les rangea sans les lire. La première page du 3e était illisible et il l'écarta. Il avait lu 8 pages du 4e manuscrit lorsque l'hôtesse vint prendre leur commande.
« Vodka on the rocks, » dit Harrod.
Maria Chen ne prit rien. Harrod examina la jeune hôtesse lorsqu'elle revint avec son verre.
Selon lui, les compagnies aériennes avaient pris une des décisions les plus stupides de l'histoire de l'aviation lorsqu'elles avaient engagé des stewards pour mettre fin aux accusations de discrimination sexuelle lancées à leur encontre. Même les hôtesses de l'air lui semblaient plus âgées et moins belles ces temps derniers. Mais pas celle-ci. Elle était jeune, propre sur elle, ne faisait pas mannequin, et était plutôt sexy dans le genre fille de ferme. Elle devait être d'origine scandinave. Cheveux blonds, yeux bleus, joues roses et parsemées de taches de rousseur. Seins opulents, peut-être un peu trop pour sa taille, et joliment moulé dans son blazer bleu à passement doré. « Merci, ma chère, » dit Harold lorsqu'elle posa le verre sur le plateau rabattable. Il lui caressa la main au moment où elle se redressait.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Kristen. » Elle lui adressa un sourire dont l'effet fut gêné par la rapidité avec laquelle elle retira sa main. « Mes amis m'appellent Chris. »«
Eh bien, Chris,
asseyez-vous ici quelques instants. » Harold tapota le large accoudoir de son siège.
« Bavardons un peu, tous les deux. »
Kristen eut un nouveau sourire, mais celui-ci était machinal, presque mécanique. « Je suis désolé, monsieur. Nous sommes en retard et je dois préparer les plateaux repas. »«
Je suis en train de lire un scénario de film, » dit Harold. « Je vais probablement le produire. Il y a là-dedans un rôle qui semble avoir été écrit pour une belle petite Machen comme vous. »
« Merci, mais je dois vraiment aller aider Laurie et Kurt à servir les repas. » Harold lui agrippa le poignet alors qu'elle faisait mine de partir.
« Est-ce que ça vous surmènerait de m'apporter une autre vodka on the rocks avant d'aller rejoindre Kurt et Laurie ?»
Elle retira lentement son bras, résistant visiblement à la tentation de se frictionner le poignet. Elle ne souriait plus. Harold n'avait toujours pas vu venir son second verre lorsqu'une Laurie souriante lui apporta un steak au homard. Il n'y toucha pas. Il faisait noir dehors et les feux de position rouge clignotaient au bout de l'aile gauche. Harold alluma la lumière mais finit par reposer le scénario. Il regarda Kristen s'affairer dans la cabine. Ce fut Kurt qui vint remporter le repas auquel il n'avait pas touché. « Désirez-vous du café, monsieur ?» Harold resta muet. Il regarda l'hôtesse blonde bavarder avec un homme d'affaires et apporter un coussin à un petit garçon qui s'endormait deux sièges devant lui.
« Tony ?» dit Maria Chen.
« La ferme !» dit Harold. Il attendit que Kurt et Laurie soient occupés ailleurs et que Kristen se trouve seule près des toilettes avant.
Puis Harold se leva. La jeune femme s'écarta pour le laisser passer, mais ne sembla pas le remarquer. Les toilettes étaient inoccupées. Harold y entra, puis rouvrit la porte et passa la tête par l'entrebâillement.
« Excusez-moi, mademoiselle. »
« Oui ?» Kristen leva la tête de la pile de plateau repas.
« On dirait que l'eau ne coule pas là-dedans. »«
Il n'y a pas de pression. »«
Il n'y a pas d'eau. »
Harold s'écarta pour la laisser entrer. Il regarda par-dessus son épaule et vit que tous les passagers de première classe étaient occupés à écouter de la musique, à lire ou à dormir. Seule Maria Chen regardait dans sa direction.
« On dirait qu'elle coule bien maintenant, » dit l'hôtesse.
Harold entra dans les toilettes derrière elle et tira le verrou. Kristen se raidit et se retourna. Harold lui agrippa le bras avant qu'elle ait eu le temps de dire un mot.
« Reste tranquille. »
Harold approcha son visage de celui de la jeune femme. Le compartiment était minuscule et les vibrations des moteurs faisaient frémir les cloisons et le lavabo en métal. Kristen écarquilla les yeux et ouvrit la bouche, mais Harold poussa et elle ne dit rien. Il la regarda dans les yeux avec une telle férocité que la force de son regard était infiniment plus intense que la pression de sa main. Harold sentit une résistance et poussa de nouveau. Il perçut le courant de ses pensées et poussa avec encore plus de force, se frayant un chemin en elle comme un nageur remontant un courant. Harold la sentit se débattre, physiquement d'abord, puis dans le tréfonds de son esprit. Il étreignit sa conscience rétive avec autant de fermeté qu'il avait jadis étreint sa cousine Elisabeth, lorsque, au cours d'une bagarre d'enfant, Harold s'était retrouvé sur elle, le bas-ventre entre ses cuisses, lui maintenant fermement les poignets plaqués au sol, résistant aux convulsions de son pelvis par la seule force de son poids. Embarrassé et excité par son érection soudaine et par les efforts violents et impuissants de sa captive.
« Assez !»
La résistance de Kristen faiblit, puis disparut. Harold ressentit la même chaleur suprême et étourdissante qui l'envahissait quand il pénétrait physiquement une femme. Il y eut un calme soudain, et une décontraction presque alarmante lorsque sa volonté envahit l'esprit de sa victime. Sa conscience d'elle-même vacilla comme chandelle au vent. Harold la laissa s'éteindre. Il ne fit aucun effort pour remonter le fil de ses pensées en quête du centre de son plaisir. Il ne perdit pas de temps à la caresser. Ce n'était pas son plaisir qui l'intéressait, mais sa soumission. « Ne bouge pas !» Harold rapprocha encore son visage. Un fin duvet doré tapissait les joues roses de Christine. Ses yeux étaient immenses, très bleus, leurs pupilles dilatées à l'extrême. Ses lèvres étaient humides et ouvertes. Harold les caressa doucement de la bouche, mordilla sa lèvre inférieure gonflée, puis inséra sa langue. Christine n'eut aucune réaction, excepté une légère exhalaison qui aurait pu être un soupir, un gémissement ou un cri si elle avait été libre. Elle avait goût de menthe. Harold lui mordilla de nouveau la lèvre, violemment cette fois-ci, puis se retira et sourit. Une minuscule goutte de sang perla à la bouche de la jeune femme et coula lentement sur son menton. Ses yeux regardaient Harold sans le voir, passif, dénué de passion. Mais il s'y devinait une lueur de terreur, tel le mouvement quasi imperceptible d'un animal derrière les barreaux de sa cage. Harold lâcha son bras pour lui caresser la joue. Il savoura les sursauts impuissants de sa volonté, la fermeté du contrôle qu'il exerçait sur elle. Sa panique lui emplissait les narines comme un parfum entêtant. Il ignora la supplique qu'exprimait son agitation et s'engagea sur le chemin obscur mais familier qui conduisait au centre moteur de son esprit. Il modela sa conscience avec l'assurance d'un sculpteur pétrissant la glaise. Elle poussa un nouveau soupir. « Tiens-toi tranquille !» Harold lui ôta son blazer et le laissa tomber dans le lavabo derrière elle. Son souffle court et la vibration des moteurs résonnaient dans le minuscule compartiment. L'avion s'inclina légèrement sur le côté et Harold fut projeté tout contre elle, cuisse contre cuisse. Son excitation accrut encore le pouvoir qu'il exerçait sur elle. « Pas un mot !» Une écharpe de soie rouge et bleue aux couleurs de la compagnie était nouée autour de son cou. Harold ne s'en soucia point et déboutonna son chemisier avec un parfait doigté. Elle se mit à frissonner lorsqu'il extirpa le chemisier de sa jupe, mais il resserra son étau mental et elle cessa de trembler. Christine portait un soutien-gorge blanc, tout simple. Ses seins lourds et pâles s'arrondissaient au-dessus du tissu. Harold sentit une inévitable tendresse s'épanouir en lui, un flot d'amour et de peine qui revenait toujours dans ces moments-là. Cela n'affectait en rien son contrôle. La bouche de la jeune femme esquissa un mouvement. Salive et sang frémirent sur sa lèvre inférieure. « Ne bouge pas !» Harold lui rabattit son chemisier derrière les épaules et le laissa pendre à ses bras ballants. Ses doigts tressaillirent. Il dégrafa son soutien-gorge et le remonta. Harold ouvrit son blouson de cuir et déboutonna sa chemise afin de frotter sa poitrine contre celle de sa victime. Ses seins étaient encore plus volumineux qu'il ne l'avait cru, lourds contre sa peau, d'un blanc si vulnérable, avec des mamelons si roses et si peu développés, que Harold sentit sa gorge se nouer tellement il aimait cette femme. « Tais-toi, tais-toi, tais-toi !» « Tiens-toi tranquille, salope !» L'avion s'inclina violemment sur la gauche. Harold s'appuya contre elle, pesa de tout son poids sur elle et se frotta au doux renflement de son ventre. Du bruit dans l'allée. Quelqu'un essaya de tourner le loquet. Harold souleva la jupe de Christine et la retroussa sur ses larges hanches. Il abaissa son collant, le coinça sous son pied gauche, puis leva le genou droit pour écarter les jambes de la jeune femme et achever de l'en dépouiller, déchirant le nylon au passage. Elle portait un petit slip blanc sous son collant. Un fin duvet doré courait aussi sur ses cuisses. Ses jambes étaient d'une douceur et d'une fermeté incroyables.
Harold ferma les yeux en signe de gratitude.
« Kristen, tu es là ?»
C'était la voix du steward. Le loquet s'agita de nouveau.
« Kristen, c'est moi, Kurt !»
Harold baissa le slip de la jeune femme et ouvrit sa braguette. Son érection lui faisait mal. Il lui caressa le ventre, juste au-dessus de la ligne de sa toison, et ce contact le fit frissonner. L'avion entra dans une zone de turbulence. Un signal sonore retentit au loin. Harold saisit les fesses de sa proie, lui écarta les jambes et se glissa en elle alors que l'avion se mettait à trembler. Il sentit le bord du lavabo sous ses doigts lorsque tout le poids de sa victime reposa sur ses mains. Il y eut une seconde de résistance sèche, puis, pour la seconde fois, une bouleversante impression de chaleur et de reddition. Harold se pressa violemment contre elle. La dent de requin rebondit sur les seins écrasés.
« Kristen ! Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Le temps se gâte ! Kristen ! »
L'avion s'inclina sur la droite. Le lavabo et les cloisons vibrèrent. Harold donna un coup de rein, pressa sa proie contre lui, en donna un deuxième.
« Vous cherchez l'hôtesse de l'air ?»
Harold reconnut la voix de Maria Chen à travers la porte.
« Elle aidait une vieille dame qui était malade. Très malade, j'en ai peur. »
Il y eut un murmure inintelligible. La sueur luisait entre les seins de Kristen. Harold la serra encore plus contre lui, la pressa, l'enserra dans l'étau de sa volonté, pénétra en elle, percevant le va-et-vient de son membre par l'entremise de ses pensées en plein désarroi, goûta le sel de sa chair et l'écume amère de sa panique, la força à bouger comme une immense marionnette molle, sentit l'orgasme monter en elle, non, en lui, les deux courants de pensées et de sensations se déversant dans un unique et noir chaudron de réaction physique.
« Je ne manquerai pas de l'en informer, » dit Maria Chen.
On tapa doucement à la porte, à quelques centimètres du visage de Harold. Il se tendit, explosa, sentit le médaillon les érafler tous les deux et enfouit son visage au creux du cou de Kristen. La tête de celle-ci était rejetée en arrière. Sa bouche était grande ouverte sur un cri silencieux et ses yeux fixaient le plafond bas. L'avion tressauta et vira. Harold embrassa la sueur qui perlait à la gorge de sa victime et se baissa pour récupérer le slip. Ses doigts tremblaient lorsqu'il reboutonna le chemisier. Le collant était filé en plusieurs endroits. Il le fourra dans la poche de son blouson et défroissa la jupe de Kristen. Ses jambes étaient assez hâlées pour dissimuler l'absence de bas. Harold relâcha peu à peu son emprise. Les pensées de Kristen étaient désordonnées, mélange confus de souvenirs et de rêves. Il la laissa renverser sur le lavabo pendant qu'il ouvrait le verrou.
« Il faut aller attacher votre ceinture, Tony. »
La mince silhouette de Maria Chen emplissait le seuil.
« Ouais. »«
Hein ?»
dit Kristen d'une voix absente. Ses yeux étaient toujours dans le vague.
« Hein ?»
Elle se pencha au-dessus du bassin en acier et vomit doucement. Maria entra et prit la jeune femme par les épaules. Lorsqu'elle eut fini de vomir, Maria lui épongea le visage avec une serviette mouillée. Harold resta dans le couloir, s'accrocha au montant de la porte pendant que l'avion tanguait comme un frêle esquif sur une mer déchaînée.
« Hein ?»
demanda Kristen en regardant Maria Chen sans la voir.
« Je ne... Pourquoi... souviens pas ?»
Maria se tourna vers Harold, tout en caressant le front de la jeune femme.
« Vous feriez mieux d'aller vous asseoir, Tony. Vous allez avoir des ennuis si vous n'attachez pas votre ceinture. »
Harold regagna son siège et reprit le script qu'il avait commencé à lire. Maria Chen le rejoignit quelques instants plus tard. Le temps se calma. À l'avant, on entendait la voix soucieuse de Kurt par-dessus le bruit des moteurs.
« Je ne sais pas, »
répondait Kristen d'une voix atone.
« Je ne sais pas. »
Harold les ignora
et rédigea quelques notes en marge du manuscrit. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux et vit que Maria Chen le regardait. Il sourit, la commissure de ses lèvres incurvée vers le bas. « Je n'aime pas attendre mon deuxième verre, » dit-il doucement. Maria Chen se détourna et fixa les ténèbres où perçait la lumière rouge clignotante au bout de l'aile. Le lendemain matin, Tony Harrod se rendit chez Willy de bonne heure. Le gardien reconnut sa Ferrari de loin et le portail était déjà ouvert lorsque la voiture fit halte devant lui.
« Bonjour, Chuck. »«
Bonjour, Monsieur Harrod. Je ne vous ai jamais vu aussi matinal. »
Moi non plus, Chuck. Je dois encore fouiller dans la paperasse. Il faut que je fasse le point sur certains projets lancés par Willy. En particulier un truc intitulé « Traite des Blanches ».
Oui, monsieur. On en a parlé dans la presse.
La maison est toujours bien gardée, Chuck.
Oui, monsieur. Au moins jusqu'à la vente aux enchères le mois prochain.
C'est McGuire qui vous paie?
Oui, monsieur. Avec l'argent de la succession.
Bien. À tout à l'heure, Chuck. Faites attention à vous.
Vous aussi, monsieur Harrod.
Il démarra sur les chapeaux de roue et accéléra encore en s'engageant dans la longue allée. Le soleil matinal créait un effet stroboscopique à travers l'écran des peupliers. Harrod fit le tour de la fontaine asséchée qui se trouvait devant l'entrée principale et se gara près de l'aile ouest, là où Willy avait ses bureaux. La maison de Bel Air de Bill Borden ressemblait à un palais importé d'une république bananière. Ses arpents de stuc, de carrelage rouge et de vitres innombrables resplendissaient dans la lumière du matin. Ses portes s'ouvraient sur des patios bordés de galeries ombragées, qui donnaient sur de vastes pièces bien aérées, reliées à d'autres patios par des couloirs carrelés. La maison semblait avoir été bâtie au fil des générations, alors qu'elle avait été édifiée durant l'été 1938 par un petit magnat du cinéma qui était mort 3 ans plus tard en visionnant des rushs. Harrod se servit de sa clé pour pénétrer dans l'aile ouest. Les stores vénitiens projetaient des bandes jaunes sur la moquette du bureau des secrétaires. Celui-ci était propre et net, les tables vierges de paperasse et les machines à écrire sous leur housse. Harrod eut un petit pincement au cœur en pensant à l'agitation qui régnait d'ordinaire dans cette pièce. Le bureau de Willy était à 2 portes de là, derrière la salle de conférence. Harrod sortit un bout de papier de sa poche et ouvrit le coffre-fort. Il posa les chemises de différentes couleurs et les documents souplis au centre du large bureau blanc de Willy. Il déverrouilla le classeur et soupira. La matinée s'annonçait longue. 3 heures plus tard, Harrod s'étira, bâilla et écarta son siège du bureau en désordre. Il n'avait rien trouvé parmi les papiers de William Borden qui soit susceptible d'embarrasser quiconque, excepté quelques picassiettes et quelques cinéphiles. Harrod se leva et boxa quelques instants avec son ombre. Il se sentait agile et léger dans ses Adidas. Il portait un jogging bleu clair, ouvert aux chevilles et aux poignets. Il avait faim. Il remonta d'un pas souple et presque silencieux le couloir principal de l'aile gauche, traversa un patio orné d'une fontaine, longea une terrasse ouverte assez vaste pour abriter un congrès du syndicat des acteurs, et entra dans la cuisine par la porte sud. Le réfrigérateur était encore bien garni. Il avait débouché un magnum de champagne et se préparait une tartine de mayonnaise, lorsqu'il entendit un bruit. La bouteille de champagne à la main, il traversa l'immense salle à manger et entra dans le salon.
« Hé, hey, qu'est-ce que vous foutez ici ?»
cria Harrod. À 10 mètres de lui, un homme était occupé à fouiller les étagères où Willy rangeait ses cassettes vidéo. Il se redressa vivement et l'ombre de son torse envahit l'écran de plus de 3 mètres de large.
« Ah, c'est vous !»
dit Harrod. Il s'agissait d'un des petits amis de Willy, que McGuire et lui avaient chassé de la maison quelques jours plus tôt. Il était très jeune, très blond, et arborait un bronzage que peu de personnes au monde pouvaient se permettre d'entretenir. Il mesurait plus d'1,80 m
et n'était vêtu que d'un short moulant et de tennis. Son torse nu n'était qu'un ondoiement de muscles. Ses deltoïdes et ses pectoraux témoignaient à eux seuls des centaines d'heures qu'il avait passées à soulever des haltères et à lutter contre une machine universelle. En voyant son ventre, Harold eut l'impression qu'on pouvait casser des briques dessus.
« Ouais, c'est moi. »
Harold trouva que sa voix ressemblait davantage à celle d'un marine qu'à celle d'un minet de Malibu.
« Ça vous dérange ?»
Harold eut un soupir de lassitude et avala une bonne gorgée de champagne. Il s'essuya la bouche.
« Foutez le camp d'ici, mon vieux. C'est une propriété privée. »
Une moue plissa le visage du bel et faible bronzé.
« Ah ouais, et alors ?»«
Bill était un ami à moi. »
« Tiens donc.
J'ai le droit de venir ici. Une grande amitié nous liait. »«
Ouais, et aussi un tube de vaseline.
Maintenant, foutez le camp d'ici avant qu'on vous jette dehors. »«
Ah ouais. Et qui va me jeter dehors ?»«
Moi. » »«
Tout seul comme un grand. »
Le jeune homme se dressa de toute sa taille et fit rouler ses muscles. Harold ne savait pas si c'était des biceps ou des triceps qu'il voyait. Tous ses muscles semblaient s'entremêler comme des hamsters en train de forniquer sous une couverture.
« Moi et les flics !»
dit Harold en se dirigeant vers un téléphone posé près du canapé.
« Ah ouais !»
Le jeune homme prit le combiné de la main de Harold, puis arracha le cordon du téléphone. Sur sa lancée, il saisit le fil et l'arracha à la prise murale. Harold haussa les épaules et posa la bouteille de champagne.
« On se calme, mon chou. Il y a d'autres téléphones dans cette baraque. Willy avait plein de téléphones. »
En trois enjambées, le jeune homme se retrouva devant Harold, lui bloquant le passage.
« Pas si vite, fumier. »«
Fumier ? » ?»«
Bon Dieu,
on ne m'avait pas dit ça depuis que j'ai quitté le lycée d'Evanston. T'as d'autres compliments en réserve, mon chou ?»«
Ne m'appelle pas mon chou, connard !»
« Celui-là, je l'ai souvent entendu. »
Et Harold fit mine de contourner l'intrus. Celui-ci lui posa trois doigts sur la poitrine et poussa. Harold rebondit sur l'accoudoir du canapé. Le jeune homme se recula et se mit en position de combat, les bras levés selon des angles bizarres.
« Karaté ?» dit Harold.
« Hé, c'est pas la peine de te fâcher comme ça !»
Un tremblement infime était perceptible dans sa voix.
« Connard !» dit le jeune homme. « Fumier, fils de pute !»«
Oh oh ! Tu commences à radoter. Ça doit être l'âge !»
Harold fit mine de s'enfuir. Le jeune homme bondit. Lorsque Harold se retourna, la bouteille de champagne était de nouveau dans sa main. Elle décrivit un arc de cercle qui s'acheva sur la tempe gauche de l'intrus. La bouteille ne se brisa pas. Il y eut un bruit sourd, évoquant curieusement celui d'une cloche dont le battant aurait été remplacé par un chat mort, et le jeune homme se retrouva à genoux, dodelinant de la tête. Harold s'avança et shoota dans un ballon imaginaire situé juste au-dessous de son menton.
« Oh !»
hurla Tony Harold en saisissant son Adidas. Il sautilla à cloche-pied pendant que le jeune homme allait rebondir sur les coussins du canapé pour atterrir ensuite devant lui, agenouillé comme un pêcheur repentant. Harold saisit une lourde lampe mexicaine et en frappa son beau visage. Contrairement à la bouteille, la lampe se brisa de façon tout à fait satisfaisante, ainsi que le nez du jeune homme et divers autres détails de son visage. Il s'effondra sur l'épaisse moquette comme un homme grenouille plongeant de son radeau. Harold l'enjamba et se dirigea vers le téléphone de la cuisine.
« Chuck, ici Tony Harold. Dites à Léonard de vous remplacer à votre poste et venez jusqu'ici en voiture, voulez-vous. Willy a laissé un tas d'ordures qu'il faut emporter à la décharge. »
Plus tard, après que le petit ami de Willy eut été conduit en salle des urgences, Harold mangea un sandwich au pâté arrosé de champagne, puis retourna examiner la vidéothèque de Willy. Elle contenait plus de 300 cassettes. Certaines étaient des copies des premiers triomphes de Willy, des films inoubliables comme « Trois sur une balançoire »,«
La créature de la plage et Souvenir de Paris. On y trouvait aussi les films que Harrod avait coproduits avec Willy, tels que Massacre au bal du lycée, Les enfants sont morts et deux suites de La nuit de Valpurgis. Plus des vieux classiques du cinéma de minuit, des bouts d'essai, des chutes, un téléfilm pilote, trois épisodes de À toi et à moi, la série télé ringarde que Willy avait tenté de lancer, une collection complète des films X de Jerry Damiano, quelques nouveautés et d'autres cassettes au contenu indéterminé. Le petit ami en avait prélevé plusieurs, et Harrod s'agenouilla pour les examiner. La première était étiquetée A et B. Harrod brancha le magnétoscope et y inséra la cassette. Un titre apparut sur l'écran. Alexander et Byron, 4/23. L'immense piscine de Willy apparut à l'image. La caméra fit un travelling latéral sur la droite, s'arrêtant sur la porte de la chambre de Willy sans s'attarder sur la chute d'eau artificielle. Un jeune homme mince vêtu d'un maillot de bain rouge apparut en pleine lumière. Il fit un signe à la caméra dans le plus pur style « film de vacances », puis s'immobilisa au bord de la piscine, un peu gêné, évoquant irrésistiblement l'image d'une Vénus anémique et plate posant pour Botticelli. Soudain, le petit ami musclé jaillit de l'ombre. Il portait un maillot de bain rouge encore plus minuscule que celui de son partenaire, et il prit immédiatement une série de poses de culturiste. Le genou élancé, Alexander, mima son admiration. Harrod savait que Willy possédait un excellent système de prise de son relié à ses caméras vidéo. Mais cette bobine de cinéma vérité était aussi muette qu'un vieux film de Charlot. Le petit ami acheva sa démonstration par une rotation du torse à se déboîter les vertèbres. Alexander s'était mis à genoux, prosterné au pied du dieu Adonis. Tandis que celui-ci gardait la pose, l'adorateur tendit une main et abaissa le slip de sa divinité. Le bronzage du jeune homme était bel et bien parfait. Harrod éteignit le magnétoscope.
Byron ? Marmonna-t-il. Seigneur !
Il retourna près des étagères. Au bout d'un quart d'heure, il avait trouvé la cassette qu'il cherchait. Étiquetée « En cas de malheur », elle était rangée juste après « Dans la chaleur de la nuit » et « De sang-froid ». Harrod alla s'asseoir sur une ottomane et manipula la cassette un long moment. Une boule lui pesait sur l'estomac, et il avait envie de ficher le camp sans tarder. Il inséra la cassette dans le magnétoscope, appuya sur la touche « Play » et se pencha en avant.
« Salut, Tony !» dit Willy. « Bonjour d'outre-tombe !»
Son image était plus grande que nature. Il était assis sur une chaise longue près de sa piscine. Derrière lui, les palmiers ondoyaient sous la brise, mais personne d'autre, pas même un serviteur, ne se trouvait dans le champ. Les cheveux blancs de Willy étaient peignés vers l'avant, mais Harrod distinguait des coups de soleil sur sa calvitie. Le vieil homme portait une chemise hawaïenne déboutonnée et un ample short vert. Ses genoux étaient tout blancs. Harrod sentit son cœur battre plus fort.
« Si vous avez trouvé cette cassette, » dit la voix de Willy, « je me vois obligé de supposer qu'un malheur m'a arraché à votre affection. Tony, j'espère que vous êtes le premier à avoir trouvé cet ultime testament. » Et que vous êtes le seul à le visionner. »
Harrod serra les poings. Il ne savait pas exactement quand cette cassette avait été enregistrée, mais c'était sans doute récemment.
« J'espère que vous vous êtes occupé des projets que nous pourrions avoir en cours, » dit Willy. « Je sais que la compagnie de production sera en de bonnes mains. » « Détendez-vous, mon ami. Et si mon testament a déjà été lu, ne vous inquiétez pas. » Cette cassette ne contient aucun codicille surprise. La maison est à vous. Ceci n'est qu'une rencontre entre deux vieux amis. Ya !
Bordel ! Souffla Harrod.
Il commençait à avoir la chair de poule.
« Profitez bien de cette maison, » disait Willy. « Je sais que vous ne l'avez jamais aimée, mais vous n'aurez aucune difficulté à la convertir en capitale si le besoin s'en fait sentir. Peut-être pourriez-vous l'utiliser pour monter notre traite des blanches, hein ?»
La cassette était très récente. Harold frissonna en dépit de la chaleur.
« Je n'ai pas grand-chose à vous dire, Tony. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que je vous ai traité comme un fils, n'est-ce pas ? Enfin, sinon comme un fils, du moins comme un neveu bien-aimé. Et cela en dépit du fait que vous n'ayez pas toujours été aussi honnête avec moi que vous auriez pu l'être. Vous avez des amis dont vous ne m'avez jamais parlé, n'est-il pas vrai ? Enfin, nulle amitié n'est parfaite, Tony. Peut-être ne vous ai-je pas tout dit au sujet de mes propres amis. Chacun de nous doit vivre sa vie, non ?
Harold se redressa, retenant son souffle.
« Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit Willy.
Il se détourna de l'objectif pour contempler les taches de lumière qui dansaient dans la piscine.
« Si vous visionnez cette cassette, cela veut dire que j'ai disparu. Personne n'est éternel, Tony. Vous le comprendrez quand vous aurez mon âge. »
Willy se retourna vers la caméra.
« Si vous atteignez mon âge... »
Il sourit. Son dentier était parfait.
« J'ai encore trois choses à vous dire, Tony. Premièrement, je regrette que vous n'ayez jamais appris à jouer aux échecs. Vous savez combien c'est important pour moi. C'est beaucoup plus qu'un jeu, mon ami. C'est beaucoup plus qu'un jeu. Vous m'avez dit un jour que vous étiez trop occupé à vivre votre vie pour perdre du temps à de tels jeux. Eh bien, vous avez encore le temps d'apprendre, Tony. Même un mort pourrait vous aider à apprendre. Zweitens, deuxièmement, je dois vous dire que j'ai toujours détesté ce nom, Willy. Si nous devions nous rencontrer dans l'autre monde, Tony, je vous prierais de m'appeler différemment. Herr von Borchert conviendrait parfaitement. Ou Der Meister. Croyez-vous en l'autre monde, Tony ?
Moi, j'y crois. Je suis sûr qu'il existe. Comment imaginez-vous un tel endroit, hein ? J'ai toujours pensé que le paradis était une île merveilleuse où l'on ne manquait de rien, où l'on rencontrait des gens à la conversation intéressante et où l'on pouvait chasser tout son saoul. Une bien belle image, n'est-ce pas ?
Harold scia. Il avait souvent entendu l'expression « avoir des sueurs froides », mais il n'en avait jamais fait l'expérience. Jusqu'à aujourd'hui.
« Finalement, Tony, je dois vous poser une question.
Harold, quel genre de nom est-ce là, hein ? Vous vous dites issu d'une famille chrétienne du Middle West, et vous invoquez souvent le nom du Seigneur. Mais je pense que le nom de Harold a d'autres origines, pas vrai ? Je pense que mon cher neveu est peut-être juif. Enfin, ça n'a plus d'importance maintenant. Nous en parlerons si jamais nous nous revoyons au paradis. En attendant, cette cassette ne s'arrête pas là, Tony. J'y ai ajouté quelques extraits du journal télévisé. Vous les trouverez instructifs, même si d'habitude, vous n'avez pas le temps de vous intéresser à ce genre de choses. Adieu, Tony. Ou plutôt... Auf Wiedersehen.
Willy fit un signe à la caméra. L'image disparut quelques instants, puis fit place à un reportage vieux de 5 mois sur l'arrestation de l'étrangleur d'Hollywood. D'autres documents suivirent, consacrés à des meurtres commis durant l'année écoulée. La cassette s'acheva 25 minutes plus tard, et Harold éteignit le magnétoscope. Il se prit la tête dans les mains, et resta immobile, un long moment. Finalement, il se leva, éjecta la cassette, l'empocha, et s'en fut. Il prit le chemin des écoliers pour rentrer chez lui, roulant à vive allure, passant les vitesses avec brusquerie, pénétrant sur la Hollywood Freeway à plus de 120 km/h. Personne ne l'arrêta. Son jogging était humide de transpiration lorsqu'il entra dans son jardin, et pila net sous les yeux furibonds de son satyre.
Harold alla au bar de son jacuzzi et se servit une vodka bien tassée. Il l'engloutit en quatre gorgées et sortit la cassette de sa poche. Il tira sur la bande magnétique et la déroula sur le sol, l'arrachant aux deux bobines de plastique. Il lui fallut plusieurs minutes pour brûler la bande dans le vieux barbecue de la terrasse. Un résidu fondu gisait parmi les cendres. Harold cogna à plusieurs reprises la cassette vide sur la cheminée en pierre du barbecue. Il jeta la boîte fracassée dans une poubelle et alla se servir une nouvelle vodka, coupée cette fois-ci de jus de citron. Harold se dévêtit et s'immergea dans le jacuzzi. Il était sur le point de s'assoupir lorsque Maria Chen entra avec le courrier du jour et un magnétophone Sony.
« Laissez ça là !»
dit-il. Et il se remit à somnoler. Un quart d'heure plus tard, il ouvrit les yeux et commença à trier le paquet d'enveloppes, s'interrompant de temps en temps pour dicter quelques brèves instructions. Quatre nouveaux scénarios étaient arrivés. Tom McGuire lui avait envoyé un tas de paperasses relatives à la maison de Willy, à la vente aux enchères et aux impôts. Il était invité à trois réceptions et il prit note de confirmer pour l'une d'elles. Dans sa lettre manuscrite, Michael May Drennan, ce jeune scribouillard insolent, se plaignait que Schubert Williams, le metteur en scène, était déjà en train de réécrire son scénario alors que ce foutu truc n'était même pas encore achevé. Harold pouvait-il intervenir? Sinon, Drennan laisserait tomber le projet. Harold jeta la lettre au loin et ne dicta aucune réponse. La dernière lettre était glissée dans une enveloppe rose postée à Pacific Palisades. Harold la déchira. Le papier à lettre était assorti à l'enveloppe et discrètement parfumé. La missive était rédigée d'une écriture soignée, avec des ronds en guise de points sur les i.
Cher monsieur Harold, je ne sais pas ce qui m'a pris samedi dernier. Je ne le comprendrai jamais. Mais je ne vous en veux pas et je vous pardonne, même si je ne peux pas me pardonner.
Lauren Sales, mon impresario, a reçu aujourd'hui les contrats relatifs au rôle que vous m'avez proposé. J'ai dit à Lauren et à ma mère qu'il devait s'agir d'une erreur. Je leur ai dit que j'avais parlé de ce film avec M. Borden peu de temps avant son décès, mais sans m'engager à quoi que ce soit. Je ne saurais être associé à un tel projet à ce stade de ma carrière, M. Harold. Je suis sûr que vous comprendrez ma position. Cela ne nous empêchera pas de travailler ensemble sur un autre film à l'avenir. J'espère que vous comprendrez ma décision et que vous ne dresserez aucun obstacle, fût-ce un détail embarrassant, qui soit de nature à compromettre nos relations futures. Je sais que je peux compter sur vous pour agir comme il convient en la circonstance, monsieur Harold. Samedi dernier, vous avez affirmé savoir que j'étais membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous devez également comprendre que ma foi est forte et que mes responsabilités envers le Seigneur et ses lois doivent passer avant toute autre considération. Je prie de tout mon cœur pour que Dieu vous aide à comprendre quelle est la meilleure façon d'agir. Très sincèrement, Sheila Barrington. Harold remit la lettre parfumée dans son enveloppe.
Sheila Barrington.
Il l'avait presque oublié. Il prit le petit magnétophone et colla ses lèvres au micro.
Maria, lettre à Tom McGuire. Cher Tom, je m'occuperai de la paperasse dès que possible. Prépare la vente aux enchères comme prévu. À la ligne. Enchanté de savoir que les chutes X que je t'avais envoyées pour l'anniversaire de Cal vous ont plu. Je pensais bien que ça vous botterait. Je vous envoie une autre cassette qui risque de vous amuser. Ne me demandez pas d'où ça vient et prenez votre pied. Faites autant de copies qu'il vous plaira. Peut-être que ça fera rigoler Marie Sanborn et ses copains de Four Star. À la ligne. Je t'enverrai l'acte de cession dès que possible. Mon comptable te contactera. À la ligne. Meilleur souvenir à Sarah et aux gamins. À la ligne. Amicalement. Oh, Maria, faites-moi signer cette lettre dès aujourd'hui, d'accord? Joignez-y la cassette VHS numéro 165 et, Maria, envoyez-moi ça en express.